Salut Mathieu.
Salut Ogier.
Comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va très très bien. Merci à toi de m'accueillir dans cette petite interview.
Ben merci de nous accorder du temps pour responsable d'affaires.fr pour aujourd'hui un petit peu mieux te connaître, savoir comment tu t'es pris pour avancer sur tes projets, comment tout le parcours que tu as suivi, parce que finalement c'est une belle aventure que tu as menée depuis le début. Et bah, je vais commencer par te laisser un peu te présenter ton parcours avant bah, la responsabilité de ton blog. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver à tout ça, simplement.
D'accord, alors grande question, donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Mathieu Vénis, aujourd'hui j'ai 30 ans et je suis donc le responsable du site penseretagir.fr qui est un site dédié à ce que j'appelle le développement personnel par l'action, c'est-à-dire mon approche du développement personnel. On pourra détailler ce point-là par la suite de l'interview si tu en as envie. Et avant de faire ça, j'ai suivi donc des études d'ingénieur. J'ai passé donc 5 ans d'études pour devenir ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur pour les plus grandes sociétés françaises. Donc, il y avait entre autres Areva, Alstom, EDF, EADS, Airbus. Donc, toutes les grosses sociétés. En fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça me plaisait pas. C'était pas. En fait, j'aimais pas l'idée d'être dans un bureau. J'aimais pas non plus l'idée de travailler pour l'armée, parce qu'il faut savoir que dans ces sociétés-là, avec des gros budgets, donc on va dire l'élite française au niveau scientifique, eh bien la plupart du temps la finalité du projet, c'est pour l'armée. Donc au point de vue de mes valeurs et au point de vue aussi de mon rythme de vie, c'était quelque chose qui me correspondait pas. Et j'ai donc choisi de renouer avec ma première passion qui avait commencé lorsque j'avais 17 ans, donc ma passion pour la psychologie et pour le développement personnel. Et voilà, j'ai commencé ensuite à créer le site penseretagir.fr. Donc c'était en février 2012 quand j'ai commencé à créer ce site en parallèle de mon métier d'ingénieur à l'époque. Et puis petit à petit, ça s'est développé, si bien qu'aujourd'hui, je me suis mis à temps plein sur ce site-là.
D'accord, waouh, donc effectivement t'as fait un gros saut en avant sur stopper bah, avec cette carrière finalement que t'avais lancée, la carrière un peu classique finalement de des affaires via ton parcours. Et puis bah, tu t'es retrouvé à. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé comme ça du jour au lendemain sur le blogging? T'avais déjà un petit peu connu des gens ou c'est vraiment tu t'es dit en autodidacte, j'ai plein de choses à partager, je vais me lancer? Comment
Alors
tu.
c'est pas du jour au lendemain. En fait, j'ai une histoire entrepreneuriale au sens large un petit peu plus espacée que ça. Je vais la faire très bref pour que tu comprennes un petit peu la psychologie que j'avais. Donc en fait, j'ai toujours créé des projets. C'est un truc que j'ai en moi. Quand j'avais 15 ans, à l'époque, j'avais créé un premier site d'humour à l'époque. Alors faut savoir qu'il n'y avait pas d'outils comme on a aujourd'hui pour faire des sites internet. Donc j'avais appris la programmation HTML, JavaScript, PHP. Donc, c'est des langages informatiques, hein.
D'accord.
Quand j'avais 15 ans, j'avais appris ça un peu tout seul. Ensuite, à 17 ans, j'ai créé une association dans la ville de Nantes à l'époque, qui s'appelait Westim Productions, qui se chargeait d'organiser des concerts de musique électronique. Donc c'était tout ce qui était rock et punk. Donc dans la ville de Nantes, on organisait des concerts, on avait même organisé un festival de plus de 5 000 personnes. Donc j'avais eu ce projet. Je parle à chaque fois de projet entrepreneurial, même si c'est pas des entreprises au sens propre, mais plutôt des projets que je porte en tant que porteur de projet.
D'accord.
Ce qui pour moi est très important à comprendre. Donc ensuite, après cette association que j'ai quittée, j'ai suivi. Donc je l'ai montée en fait pendant 5 ans et ensuite je l'ai quittée pour me mettre sur mes études d'ingénieur. Alors il y a eu une partie en parallèle des études et puis après quand je suis arrivé au master, j'ai quitté l'association. Donc 5 ans d'études, ensuite 4 ans donc en tant qu'ingénieur. Sur ces 4 ans-là, en 2011, j'ai créé une première société donc qui était sous la forme d'une SARL. Qui s'appelait Make Your Deal, qui était un petit peu qui exploitait le business des achats groupés, un peu ce que fait Groupon.
D'accord. OK.
Alors faut savoir que cette société-là, on l'a créée, on va dire, on a monté le projet pendant un an. Et une fois qu'on a déposé les statuts de la société, moi je suis resté 3 mois dans la société parce que je sentais que c'était un échec et que c'était plus pour moi. Et on s'entendait pas sur la stratégie avec mon associé. Donc j'ai quitté la société fin 2011. Donc ça a été toute l'année 2011 où il y a eu ce projet de société, donc de SARL, et ensuite j'ai créé mon site web Penser et Agir, donc en février 2012. Je l'ai développé pendant un an et demi, 2 ans, ouais, un an et demi, et ensuite en septembre 2013, du coup j'ai créé la société Donc aujourd'hui qui me fait vivre, qui s'appelle MVG Conseil. Bon, c'est la société qui est derrière Penser et Agir, hein. Le nom de la société importe peu. Et du coup voilà, juste pour te redire, du coup je l'ai pas fait, je me suis pas jeté à l'eau, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Même si par contre le choix de dire je quitte mon métier d'ingénieur et je me mets à temps plein sur ma société, même si j'avais un passif, même si mon site Penser et Agir commençait à être connu. C'est quand même, ouais, voilà, c'est quand même un saut dans le vide quand on le fait. Mais j'avais quand même un passif de porteur de projet, pas forcément d'entrepreneur. J'avais créé qu'une boîte avant qui n'avait pas fonctionné, mais de porteur de projet qui faisait que je savais quand même un minimum gérer mes projets. Et puis je me connaissais aussi au niveau de la persévérance et de la gestion des échecs et des choses comme ça.
D'accord. Bon, je vais en profiter pour rebondir parce qu'effectivement, les gens qui connaissent pas ton site sont peut-être intéressés de savoir penser à agir. Tu nous expliquais en présentation l'approche que tu avais une approche du développement personnel particulière. C'est toi-même qui l'a dit. Si t'as deux trois mots pour résumer ça, pour que les gens qui nous écoutent aient envie d'aller jeter un petit œil, même passer quelques heures sur ton site, quelle est ta philosophie?
Carrément, je peux t'expliquer ça. En fait, donc j'ai baptisé ma philosophie, enfin mon approche, j'appelle ça une approche plus qu'une philosophie, le développement personnel par l'action. Et en fait, la plus-value que j'apporte, c'est ce que j'appelle dans mes formations avancées. Donc bien sûr, j'ai des formations payantes avec des clients qui suivent ces formations. Et à un moment, je définis ce que c'est que l'expertise. Il faut savoir que quand on est porteur de projet, quand on développe une société, une affaire ou quoi que ce soit, eh bien, on doit faire valoir son expertise. Et pour moi, l'expertise, c'est, on va dire, l'agrégation ou du moins l'endroit où se rejoignent l'ensemble de nos passions, l'ensemble de ce qui nous fait vibrer et qui est en accord avec nos valeurs. Et moi, j'avais différentes passions, dont deux principales, qui étaient, depuis mes 17 ans, donc la psychologie et le développement personnel. Et puis, d'un autre côté, quand même, tout ce que j'avais appris en tant qu'ingénieur, donc pendant les 5 ans d'études et pendant les 4 ans où j'ai vraiment travaillé sur des très, très gros projets. Et en termes d'ingénierie, j'étais ingénieur en modélisation. Donc, en gros, pour simplifier à l'extrême, on prend des problèmes dits complexes et on va les simplifier au maximum pour pouvoir raisonner sur des concepts simples. Et
D'accord.
ensuite, on va appliquer ces concepts sur les problèmes complexes et on va les résoudre. Et je me suis dit, ce serait intéressant de considérer la psychologie et le développement personnel comme des problématiques complexes. Par exemple, comment ne plus avoir peur d'échouer, comment avoir confiance en soi, comment ne plus être jaloux dans son couple, etc., etc. Ce sont des problématiques complexes qui font intervenir tout un tas de leviers psychologiques, tout un tas d'outils. Ça va dépendre de la problématique. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser les méthodes que j'ai acquises dans mon métier d'ingénieur pour abstraire toute cette difficulté, raisonner sur des concepts simples, clairs, pratiques, structurés, cohérents, et puis en sortir des méthodes qui vont être pas à pas et qui vont permettre aux personnes qui rencontrent ces problèmes complexes de suivre finalement des méthodes très simples et d'arriver à les corriger très rapidement. Donc, dans les formations que je développe sur mon site, j'ai toujours un leitmotiv, on va dire, c'est de faire des formations qui sont pas extrêmement longue dans le temps. Sur Internet, on voit souvent des formations qui durent 1 an, 2 ans. Les miennes, elles vont. Alors, il y en a certaines qui durent 2, 3 jours, notamment celle sur la peur de l'échec avec des techniques d'auto-hypnose. En 2, 3 jours, voire 1 semaine, on peut retirer par exemple la peur de l'échec. Et d'autres qui vont durer 6 semaines, 1 mois, 2 mois, mais j'essaie jamais d'aller vraiment trop loin. Et surtout, des choses, enfin, des actions super simples, vraiment super simples. Et qui fonctionne vraiment parce que derrière, il y a eu toute la méthode que j'ai appliquée de mon côté, voilà, que j'ai pris de mon travail d'ingénieur, que j'ai appliqué à la psychologie. Et ça a donné l'approche, le développement personnel par l'action.
Wow, effectivement. Donc en fait, ouais, effectivement, il y a une grosse part d'analyse, c'est-à-dire que tu vas te focaliser. Alors j'imagine qu'au départ, t'es parti d'un petit peu de ton analyse de vie personnelle sur
Exactement.
comment transférer la méthodologie professionnelle sur ta vie personnelle pour résoudre tes problématiques. Et après, t'as rencontré, j'imagine, par tes coachings, tes premiers coachings, etc. Les problématiques qui sont revenues récurrentes. Et c'est là que tu as défini comment conceptualiser finalement une démarche, une solution à ces problématiques qui sont complexes et qui soient finalement une aide pour franchir la première marche de l'escalier des problématiques des gens, quoi. Finalement, comment monter ces premières marches de solution? C'est souvent ça là où on bloque, c'est par où on commence, par
En
où.
fait, ouais, comme tu l'as dit déjà, tout ce que j'écris sur mon blog ou toutes les formations que je vais faire, ça vient de mes expériences personnelles. C'est-à-dire que je vais pas créer une formation pour répondre à un problème parce qu'elle va se vendre si de mon côté je l'ai pas expérimenté. Donc j'ai des formations sur la peur de l'échec, des formations sur le développement de projet, sur la jalousie amoureuse. Et toutes ces problématiques-là, je les ai rencontrées personnellement en fait. Donc après, à partir du moment où j'ai trouvé une méthode, que je l'ai expérimentée, que j'ai eu des résultats positifs, dans ce cas-là, j'en fais une formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à force de créer des formations, alors aujourd'hui, là, au jour où on fait cette interview, j'ai créé cette formation en ligne. Du coup, maintenant, j'ai des ce que j'appelle des méta-méthodes. Bon, c'est un peu, voilà, c'est pour reprendre le vocabulaire ingénieur, s'il y a des ingénieurs qui écoutent,
D'accord.
qui me permettent en fait voilà, de créer des formations beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, parce que j'ai une structure qui s'est créée au fil du temps. Et du coup, j'ai modélisé moi la structure que j'utilise pour, enfin que j'utilisais pour faire les premières formations. Mais à chaque fois que je vais attaquer un sujet, c'est un sujet que j'ai personnellement vécu, et ça, c'est très important pour moi au niveau de l'éthique.
Et puis ta crédibilité, effectivement, hein,
Voilà,
c'est
voilà.
bon, faut vivre les choses pour être crédible, sinon ça ne sert absolument à rien.
Comme je dis souvent, il faut parler de faits, c'est-à-dire de choses qu'on a expérimentées et pas d'opinions. Les opinions, c'est ce qu'on a lu. On peut avoir lu 100 livres sur comment devenir riche et pas gagner un centime. Et il peut y avoir une personne qui a jamais lu de livre sur comment devenir riche, mais qui a trouvé à un moment quelque chose qui fonctionnait, et il sera 100 fois plus, comment dire, éthique pour partager ses conseils que la personne au SMIC qui a lu 100 livres pour devenir riche, quoi.
Bien
Entre
sûr.
guillemets, voilà.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Peut-être que tu, alors, je sais pas si tu auras la réponse, mais pour toi, pour les gens qui nous écoutent, quand il faut résoudre une problématique, est-ce qu'il y a dans la résolution de cette problématique, est-ce qu'il y a 20% de réflexion, 80% d'action, parce que là on est sur penser et agir finalement, ou est-ce que, enfin, est-ce que t'as, voilà, est-ce que c'est 80% de réflexion, 20% d'action seulement finalement? C'est par rapport à ton expérience maintenant, parce que je pense que tu dois avoir un paquet de clients qui te posent plein qui ont plein de problèmes. Et comment, justement, quel est le déclic? Est-ce que c'est la réflexion ou l'action plus dure pour
Alors c'est une super bonne question. C'est une question dont j'ai pas eu la réponse pendant assez longtemps. Donc je donnais jamais la réponse à cette question-là, et j'ai enfin compris la réponse à cette question-là, qui est assez complexe à appréhender. Donc comme tu l'as dit, hein, il y a une dualité entre la pensée et l'action. Et bien entendu, si on passe sa vie à penser, on reste dans ce qui s'appelle l'imaginaire. Et si et donc on passe jamais à l'action, et donc ça sert strictement à rien. Et si par contre on passe à l'action tout le temps, super rapidement, et qu'on réfléchit pas avant, bah on fonce droit dans le mur et on fait n'importe quoi. L'idée, c'est que le projet, il va se développer. On va dire que dans la réalité, il y a toujours une phase réalité et une phase imaginaire. Et dans chacune de ces phases, il y a de la pensée et de l'action en fait. Dans la réalité, 99% c'est de l'action. C'est-à-dire, à un moment, faut agir. De toute façon, il ne se passera rien si on n'agit pas. Donc, dans la réalité, intuitivement, on a envie de dire 99% c'est de l'action et 1% c'est de la pensée. Maintenant, il y a un truc super important, c'est qu'il faut valider. Et on pourra en revenir après sur ce point-là, si tu veux que je partage des astuces pour manager sa vie ou des choses comme ça après.
Bien sûr.
Mais il faut valider en amont certains points précis qui cette fois vont être que de la réflexion et que de la pensée. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis vraiment énormément de temps à comprendre, notamment quand je me suis orienté dans ma carrière d'ingénieur. Quand je me suis orienté dans ma carrière d'ingénieur, j'avais pas validé au fond de moi, en fonction de mes valeurs, que ce métier me correspondait. En fait, ça me correspondait pas. En fonction de mes valeurs, en fonction de mon rythme de vie, de ce à quoi j'aspirais, de ma volonté de contribuer. Enfin, après, ça dépend des valeurs de chacun.
Bien sûr.
Mais avant de se lancer dans n'importe quel projet, pas forcément une société, mais n'importe quel projet, il faut valider ses valeurs. Et ça, c'est super compliqué. Donc ça, c'est la partie, on va dire 99% de pensée et 1% d'action. C'est la partie imaginaire, la partie préalable à n'importe quel projet. Trouver, identifier, valider ses valeurs. Et à chaque fois qu'on me donnait ce genre de conseils avant, moi, j'y prêtais pas attention. Déjà, c'est des conneries de philosophie. On me dit n'importe quoi. C'est pas la solution. Le mec, il a réussi, il a compris autre chose. Il veut pas le dire, alors il dit ça. Enfin, tous les
Merci.
trucs qu'on s'est tous dit. Enfin, qu'on s'est tous dit. Je pense pas que mon cas soit différent. Donc, je pense qu'on se dit tous ça. Et il y a un moment, en fait, à force d'échouer, à force de créer des trucs, des projets, des machins, je me suis dit, c'est pas possible, ça marche jamais. Je me suis dit, je vais peut-être enfin, comprendre pourquoi ça marche pas. Puis j'ai relu plein de livres, notamment de Napoléon Hill, d'Anthony Robbins, enfin plein de livres. Et à chaque fois, tous les auteurs, pas qu'eux, hein, il y en a plein d'autres, à chaque fois, ils revenaient sur l'idée des valeurs et de pourquoi est-ce qu'on fait ça, pour qui on le fait, est-ce que c'est pour nous, etc., etc. Et donc, je me suis recentré sur mes valeurs, je les ai identifiées, je les ai validées. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu réorienter absolument toute ma vie, mais vraiment toute ma vie. C'est-à-dire que le projet personnel, le projet professionnel, mon rythme de vie, mes amis, enfin, tout a changé. tous les conseils qu'on voit sur les sites de dev perso en disant changez les 5 personnes que vous côtoyez le plus, etc., etc. Il y a plein de conseils qu'on donne, mais tout ça, ça découle des valeurs. Donc, à ta question, qu'est-ce qui est le plus important? C'est difficile de répondre parce que si on n'a pas fait le travail sur les valeurs, à ce moment-là, c'est la pensée à 99%. C'est la réflexion, l'introspection. Et une fois qu'on a fait le travail sur les valeurs, qu'on comprend ce qu'on veut et qu'on a trouvé ce que j'appelle, alors dans mes formations, j'appelle ça le cap, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller au loin, et bien là, dans ce cas-là, on passe ensuite à la réalité. Et donc, on va créer un projet, on va rentrer dans toutes les techniques de développement de projet. Et là, ce sera 99% d'action, mais tout le temps une action dirigée en accord avec les valeurs.
Waouh, donc ouais, c'est vrai qu'effectivement, on peut pas répondre sur un pourcentage, vu comme ça, c'est effectivement.
Il y a les deux leviers.
Ouais, il y a les deux leviers. Et après, je pense aussi ce que tu rejoins, ce que j'ai beaucoup observé aussi, c'est qu'il faut déjà être clair sur son projet personnel et qui est finalement fondé par tes valeurs. Donc savoir vraiment qu'est-ce que tu veux faire. Donc cette phase réflexion finalement, être clair là-dessus. Et après les actions, ça dépend aussi de ton projet, l'envergure de ton projet. Des fois, il faut peut-être qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'actions que la simple réflexion. Finalement, au départ, si c'est simple, alors c'est là on conceptualise des choses qui sont pas avec un exemple concret, donc forcément c'est difficile. Mais ouais, il y a toujours savoir son projet. Et ça, je remarque, je pense que c'est quelque chose que tu dois remarquer, c'est que les gens ont tendance à avoir du mal à identifier le vrai projet qui leur colle à la peau. Et ce vrai projet qui leur colle à la peau, c'est finalement via ses valeurs. Et c'est, ouais. Ça m'amène à cette question que je voulais te poser, et je pense que c'est aussi une des choses que les gens attendent de cette interview, c'est selon toi, selon ton expérience, les 5 clés que tu pourrais partager avec nous pour bien manager sa vie. Parce que manager sa vie, je pense finalement, c'est aussi connaître son projet, quel est son projet qui mène à sa peau, enfin qui colle à sa peau. Et est-ce que effectivement, tu aurais 5 clés qui nous permettraient aux personnes qui nous écoutent de pouvoir bien manager leur vie?
Ok, donc 5 clés. Alors déjà, oui, en développement personnel, hein, on dit être aligné par rapport à ses valeurs, on parle d'alignement. Et en fait, franchement, hein, une fois qu'on a... Tu sais, il y a les savoir-être, les savoir-faire, et savoir-être, savoir-faire, et tout ce qu'on a à les avoir. Savoir-être, c'est les valeurs, savoir-faire, c'est les compétences, et les avoir, les acquis, c'est tout ce qui est matériel. Une fois que vous avez votre savoir-être, c'est-à-dire une fois qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a identifié, qu'on a validé ses valeurs et qu'on est aligné par rapport à elles, les savoir-faire et les avoir viennent tout seuls. En fait, c'est assez magique. Alors après, voilà, suivant les sites de dev perso, on va parler de loi d'attraction, on va parler de chakras, de plein de trucs. Ça va dépendre des sites. Il y aura des trucs qui seront plus ou moins ésotériques, etc., etc. Mais au final, c'est que des concepts, enfin, c'est que des mots sur les mêmes choses. Justement, c'est un peu ça, moi, que mon métier d'ingénieur m'aide à faire, c'est trouver dans toute la tambouille qui existe sur Internet toutes les méthodes, les trucs, les machins ésotériques. Ésotérique, c'est pas forcément négatif d'ailleurs, hein, mais dans toutes les approches qui existent, de trouver un petit peu la substance et le tout ce qui revient. Et ce que je me suis rendu compte vraiment, c'est l'alignement sur les valeurs, c'est le principal. Et après, tout ce qui semble très difficile aujourd'hui, et c'est difficile à expliquer quand la personne qui écoute l'interview est pas encore là-dedans, en fait, il faut le vivre pour le comprendre, c'est toujours pareil. Quand on a validé les valeurs, après ça vient tout seul et c'est presque magique. Alors pour les 5 clés, du coup la première clé, je pense que tu l'as compris, c'est le travail sur les valeurs. Pour ça, j'ai une clé que j'ai appelée les 3 P, j'en parle dans mes formations. Bon, après ça va beaucoup plus loin, mais pour faire court, il y a 3 questions à se poser qui s'appellent les 3 P. C'est un moyen mnémotechnique. Pourquoi est-ce que je le fais? Donc là, ça suppose qu'on a identifié ces 3 valeurs fondamentales. Pour ma part, je vais donner un exemple parce que, comme je dis, hein, je parle de choses que je fais moi et pas de choses que j'ai lues dans un livre. Mes valeurs fondamentales, c'est la liberté, le dépassement de soi, la contribution. Je les connais comme on me demande mon prénom. Tu t'appelles comment, Mathieu? Quelles sont tes 3 valeurs? Liberté, contribution et dépassement de soi. Donc je sais que quoi que je fasse dans ma vie, il faut que ça m'aide à être plus libre, à me dépasser encore plus et que ça permette de contribuer à court terme ou à moyen terme sur ces trois actions-là. Et je sais que si c'est en accord avec ces valeurs-là, alors c'est bon pour moi. Donc les 3 P, déjà, il faut que les personnes se demandent pourquoi est-ce qu'elles veulent faire leur projet. Donc est-ce que c'est en accord avec leurs valeurs? Pour qui est-ce qu'elles le font? Est-ce que c'est pour elles ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Si c'est pour quelqu'un d'autre, ça sert à rien, ça fonctionnera pas. Si c'est pour elles, ça fonctionnera. Et la troisième P, c'est pour quand? Toujours avoir une date limite, ça peut être 1 mois, 3 mois, 1 an. Quand on commence à être au-dessus d'un an, c'est qu'on commence déjà à être bon. Donc moi, je conseille aux personnes qui débutent dans les projets, quel qu'il soit toujours, de pas dépasser 1 an au début parce que la vision elle devient difficile après. Et pour les personnes qui ont des sociétés plus ou moins grosses, on va dire voilà, qui ont des sociétés qui tournent, après la vision 1 an, on peut passer à 5 ans. Et pour les personnes qui ont des sociétés qui vont être à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, là dans ce cas-là, elles peuvent passer à des visions à 25 ans. Mais bon, moi tu vois, je suis pas encore aux visions à 25 ans aujourd'hui. C'est même pour les sociétés qui ont des chiffres d'affaires d'un million et plus, je crois. Ça,
D'accord.
du coup, c'est quelque chose que j'ai lu. Mais le pourquoi, en tout cas, que je recommande, si vous débutez, dépassez pas 1 an au début en vision. Et ensuite, pour les personnes qui voilà qui ont un projet qui fonctionne déjà, ayez une vision à 5 ans. Donc il y a les paliers. En gros, c'est 1 an, 3 mois. Enfin, pardon, 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans. Voilà. Ça,
D'accord.
c'est des visions intéressantes. Donc, pourquoi est-ce que je le fais? Pour qui est-ce que je le fais? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Et pour quand? Est-ce que j'ai ces comment dire, ces paliers-là, 1 mois, 3 mois, 1 an, et si mon projet est déjà lancé, 5 ans. Ensuite, la deuxième clé, c'est ce qui m'a fait quitter mon job d'ingénieur clairement. C'est-à-dire que quand j'avais tout le passif que j'ai raconté dans l'interview, puis ensuite je me suis posé une question. C'est ce que j'ai baptisé ensuite la dynamique des regrets. La dynamique des regrets, c'est se poser la question, si je me projette dans 15 ans, ou dans 10 ans, 10 ans ou 15 ans, et que je ne suis pas passé à l'action sur le projet que j'ai aujourd'hui, sur lequel j'ai envie de passer à l'action aujourd'hui, sans penser en termes de finalité, c'est-à-dire sans penser en termes de réussite ou d'échec. Comment est-ce que je me sens? Donc là, en fait, on fait ce qui s'appelle en développement personnel une visualisation. Donc on ferme les yeux, on imagine ce qui s'appelle un jour moyen idéal. Donc on a 15 ans de plus, on se lève le matin et on fait quelque chose. Donc sa vie qui s'est découlé sans qu'on ait passé à l'action sur le projet. On regarde ce qu'on mange le matin, si on va au travail ou pas, à quelle heure on y va, qui sont nos collègues. On imagine tout ça vraiment le plus précis possible et le plus précis sur des choses vraiment, vraiment très très précises, comme qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on passe notre temps, à quelle heure on part au travail, à quelle heure on revient, est-ce qu'on fait du sport ou pas, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on a des enfants, etc., etc. On détaille le plus possible. La visualisation, elle doit prendre, allez, 20 minutes, on va dire.
OK.
Donc, visualiser, la différence entre l'imagination et la visualisation, c'est que l'imagination, c'est juste ce qu'on fait tous les jours, enfin quand on voilà, ça tout le monde le sait, et la visualisation, c'est utiliser les 5 sens, donc visuel, odorat, gustatif, kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, et j'en oublie toujours un, et l'ouïe, donc entendre.
OK.
Donc quand on imagine, on essaye de ressentir au maximum les sensations. Et donc on se projette 15 ans plus tard. On vit une journée moyenne comme ça, qui se passerait, et on met l'accent sur le fait de penser 15 ans en arrière, du coup, qu'on n'est pas passé à l'action. Et surtout, on ne réfléchit pas en termes de réussite, de savoir si ça a réussi, si ça aurait réussi, ou si ça n'aurait pas réussi. On se dit juste, ok, voilà, j'ai même pas essayé, je suis même pas passé à l'action. Comment est-ce que je me considère dans la visualisation, en termes de fierté, où en est mon ego, qu'est-ce que je transmets à mes amis, à mes enfants si j'en ai, quelle est ma contribution, etc., etc. En fonction de ces valeurs qu'on a identifiées dans la première clé, les clés elles sont dans l'ordre, hein. Si vous n'avez pas vos valeurs, ça sert à rien de visualiser. Donc, en fonction de vos valeurs, comment est-ce que vous sentez, etc., etc. Et si le projet vous correspond réellement, vous allez vous rendre compte que ça va vous faire un choc hallucinant. C'est-à-dire que vous allez enfin, vous pouvez vous mettre à pleurer, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Et moi, en fait, ce qui s'est passé dans ma, quand j'ai fait cette visualisation-là, je l'ai pas fait qu'une seule fois, je l'ai fait plusieurs fois pour vraiment me ruiner le moral, on va dire. C'est ce qui s'appelle de la projection négative en développement personnel. C'est ultra puissant. C'est 100 fois plus puissant que la projection positive. Faut faire aussi de la projection positive, hein, c'est génial. Mais la projection négative, c'est 100 fois plus puissant. Et donc je me suis dit c'est pas possible, je me vois pas encore prendre le RER ou le métro tous les matins, aller au travail avec les mêmes collègues. Je me voyais riche, hein, parce que j'avais déjà un bon début de carrière, donc je me voyais avec une bonne évolution, un bon salaire, donc j'avais de l'argent dans ma visualisation. Mais c'était horrible parce que voilà, du coup j'avais pris en responsabilité, je travaillais beaucoup, du coup j'étais stressé, je pouvais pas aller au sport. Le sport c'est très important pour moi parce que j'avais plus le temps, j'avais une famille, j'avais le travail, enfin bon, toutes les problématiques que connaissent les personnes. Je l'ai vraiment ressenti à fond dans cette visualisation, et en plus c'était pas en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire j'étais pas libre. La liberté de partir en vacances quand je voulais, par exemple, bah non, j'avais 5 semaines de vacances plus des RTT dans la visualisation, hein. J'étais pas libre de faire de ce que je voulais. Je me dépassais pas forcément parce que le projet m'appartenait pas. J'étais toujours salarié. Et en termes de contribution, si ça, enfin, dans ma visualisation, je continuais de contribuer à l'armée, ce qui ne me plaisait absolument pas. En tout cas, c'est pas ce que je voulais faire. Donc du coup, voilà, ça, dynamique des regrets, la projection, ça m'a vraiment aidé à faire le choix de quitter le job. Ensuite, la troisième clé, c'est un truc super simple. C'est ce que j'ai appelé la dynamique de l'action. Donc il y a la dynamique des regrets, la dynamique de l'action. Donc toujours pareil, c'est dans l'ordre, hein. Avant les 3P, ensuite la dynamique des regrets, on passe à l'action. Ensuite, la dynamique de l'action au quotidien. Il y a une phrase à retenir, c'est fait est mieux que parfait. À chaque fois que je suis en train de me dire est-ce que ça va être trop compliqué? Est-ce que je vais y arriver? En gros, que je suis en train d'imaginer quelque chose et que je suis en train de tomber dans la procrastination et le perfectionniste. Donc procrastination, toujours essayer de remettre au lendemain alors qu'on pourrait le faire tout de suite. Et perfectionniste, c'est à peu près la même chose, c'est essayer de trouver le plan parfait alors qu'il n'existe pas. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un réflexe qui est ancré en moi, c'est un mindset, hein, comme on dit aux États-Unis, c'est fait et mieux que parfait. Et donc, je passe à l'action directe, je fais le truc. Et je préfère faire quelque chose qui va pas fonctionner et voilà, et qui va, comment dire, qui va pas fonctionner et ça va bugger, ça va faire des trucs qui fonctionnent pas, ça va pas être bien, mais le faire parce que je sais qu'une fois que je l'ai fait, eh bien, j'aurai des axes d'amélioration. Et ça a changé ma vie en termes d'action. C'est-à-dire que maintenant, je réfléchis. C'est là où, une fois qu'on a validé les valeurs et tout, et qu'on a le plan d'action, on va dire, on a un plan d'action, on connaît les grandes directions où, dans lesquelles on veut aller, ben on passe à l'action, quoi. Et ensuite, on fait ce que les ingénieurs appellent de l'amélioration continue, c'est que en fonction des résultats qu'on a obtenus, qui sont bons ou mauvais, ben on va améliorer en permanence. Et voilà. Donc la règle là-dedans, c'est fait est mieux que parfait.
Et du coup, juste pour faire un focus pour les gens qui nous écoutent, c'est que toi, quand tu as fait cette dynamique des regrets, quand tu as visualisé si ta vie ne changeait pas sur 10-15 ans,
Ouais.
et que tu t'es dit, là, non, c'est ça, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu n'étais peut-être pas sûr de te lancer, d'arrêter avec ton job, mais tu t'es dit, j'arrête quand même parce que ce sera mieux que d'attendre la super opportunité ou de y aller avec un filet monstrueux, etc. C'est là que t'es passé à l'action en donnant ta démission et en changeant de vie finalement, simplement.
Alors j'ai quand même assuré un minimum mes arrières parce que, enfin, en gros, les opportunités, il y en a 100 000 autour de vous. Ce qu'il faut, c'est les percevoir, quoi. Il faut percevoir les opportunités, et pour ça, il faut avoir le bon état d'esprit. Ensuite, quand j'ai quitté mon job d'ingénieur, j'ai fait ce qui s'appelle un licenciement conventionnel, ce qui m'a permis d'obtenir une aide qui s'appelle le fonds ACRE, qui est l'aide à la création d'entreprise, qui permet en gros de toucher l'équivalent de ce qu'on aurait eu en chômage en aide à la création d'entreprise, justement. Et du coup, on n'est pas considéré comme chômeur, mais comme créateur d'entreprise. Bien entendu, il faut créer une boîte pour le
Bien
toucher.
sûr, d'accord.
Donc
Ok.
déjà j'ai fait ça. Par contre, quand j'ai quitté mon job, j'avais peur, hein. J'avais peur énormément. Ma famille me soutenait absolument pas parce que j'avais une très bonne carrière d'ingénieur. J'avais atteint un poste que tout le monde voudrait avoir quand on est ingénieur. Donc du coup, mes grands-parents, mes parents me soutenaient absolument pas. Ils disaient que c'était de la folie. Donc c'était compliqué. Souvent les personnes qu'on les personnes se disent, ah oui, mais lui il avait un bon statut, il avait un peu d'argent, donc c'est plus facile pour lui de commencer un projet. Eh bien moi, quand j'étais dans ce cas-là, j'étais donc du coup ingénieur, je me disais, ceux qui n'ont pas de projet entre guillemets, ou qui n'ont pas de carrière, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils n'ont rien à abandonner. Donc en fait, quelle que soit notre position, on jette toujours la pierre sur l'autre camp, quoi.
Ouais.
Donc c'est pas, en gros, quand vous dites oui mais c'est de la faute de l'autre, ou l'autre il est mieux que moi, déjà rayez ça sert à rien. Donc je me suis bien sûr assuré vos arrières au maximum que votre situation peut le permettre. Donc moi j'avais la possibilité d'avoir le fonds, donc je l'ai fait. Mais par contre, quand je me suis jeté à l'eau, j'avais peur. Mon site avait, alors à l'époque il avait 3 000, j'avais une liste d'emails de 3 000 membres, quelque chose comme ça. Donc j'avais quand même un peu de membres, quoi. J'avais aucun produit, enfin aucune formation en ligne, je vendais rien, j'avais pas fait d'argent. Encore, ce que je conseille pas. Aujourd'hui, mes clients qui se lancent sur le web, je leur conseille de je leur dis, si vous voulez gagner 1 million de dollars sur inter... enfin 1 million de dollars, 1 million d'euros sur Internet, commencez par gagner 1 euro. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas appliqué parce que moi, en fait, la visualisation que j'ai faite m'a tellement mis hors de moi et m'a tellement impacté qu'il fallait que je quitte mon job le lendemain, quoi. Le
Ouais.
lendemain, j'ai appelé mon patron, on fait un licenciement conventionnel, et je savais que j'avais quand même cette aide qui allait me permettre ensuite de créer des produits et de vendre des choses. Mais voilà, j'avais peur. Et après, voilà, c'est normal d'avoir peur, mais pas trop, quoi. Donc
Et Après, juste un mot sur ce que tu disais, ce que je trouvais assez intéressant, c'est souvent aussi pour les personnes qui nous écoutent, quand vous voulez prendre une décision, on essaie de se référer à sa famille, mais finalement, ils ont jamais vécu ce qu'on est en train de vouloir entreprendre. Et donc, finalement, par protection, ils vont vouloir nous protéger en nous disant, oui, bah non, ne tente jamais ça. Attends, t'as fait des super études d'ingénieur, Mathieu. Demain, tu vas te retrouver dans un milieu que tu ne connais absolument pas. Tu n'as aucune personne qui peut t'aider. C'est des gens, en plus, pour la plupart du temps, c'est sur Internet qu'on apprend. Donc, ces gens-là, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? On ne connaît pas leur vraie vie. Et finalement, ça, c'est quelque chose, si vous écoutez, que vous voulez avancer dans un projet, oui. Parlez-en à votre famille, ok, mais attention aux mots qui vont être prononcés par votre famille parce que c'est très puissant et des fois ça stoppe complètement l'envie finalement d'aller plus loin.
En fait, il y a la règle que je donne aux personnes qui suivent mes formations, c'est référez-vous aux faits, enfin fiez-vous aux faits et jamais aux opinions. Et en l'occurrence, votre famille n'a que des opinions. C'est-à-dire qu'un fait, c'est quelqu'un qui a vécu la chose. Un opinion, c'est quelqu'un qui pense quelque chose à propos de quelque chose. Faut savoir que 99% des gens de la population française ou des gens qui vous entourent n'ont que des opinions. Le petit pourcent de personnes qui parlent de faits, il est extrêmement rare. Et on a tous une part de fait, on va dire, dans notre vie, parce qu'on a tous expérimenté certaines choses. Maintenant, on s'exprime tous plus ou moins sur plein de sujets qu'on ne comprend pas, notamment pour en donner un qui pourrait partir en débat dans tous les sens, la politique. Vous faites un débat politique, vous allez avoir des personnes qui vont s'exprimer, qui vont dire tout et son contraire, plein de choses. Au final, ils n'ont rien vécu et voilà, ils parlent pas de faits. Ils savent absolument rien et ils parlent. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté de parler de politique. Mais bon, on va pas aborder la thématique de la politique ici, mais c'est l'un des sujets les plus sujets justement aux opinions et aux faits. Donc, si vous devez écouter des conseils, entourez-vous de personnes qui vont vous parler de faits. Et ça, justement, c'est la quatrième clé que je veux te donner. C'est ce qui s'appelle le mastermind, ou le cerveau collectif en français. Ça a été mis en évidence par Napoléon Hill dans le livre très connu Réfléchissez, devenez riche. Puis ensuite, Anthony Robbins en a parlé derrière. Et puis, vous trouverez énormément d'informations sur les cerveaux collectifs et les masterminds sur Internet. En gros, c'est super simple. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Alors moi, je rajoute un mot dans cette définition-là, c'est vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez volontairement le plus souvent. En fait, j'exclus tout ce qui est collègues et toutes les personnes que vous côtoyez parce que vous êtes obligé de les côtoyer.
Bien
Parce que je
sûr.
me dis que celles-là, vous n'allez pas. Elles vont déteindre sur vous inconsciemment, malheureusement. C'est pour ça que la vraie définition de Napoléon Hill, les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent, elle est vraie. Parce que même si vous ne choisissez pas, ça va quand même déteindre sur vous, malheureusement. Par contre, moi, j'ai une définition proactive, c'est-à-dire que voilà, qu'on ait un levier de modification, qui est les 5 personnes que vous côtoyez volontairement le plus souvent. Là, vous pouvez agir là-dessus. Et moi, ce que je vous conseille de faire, vous faites un tableau avec 2 colonnes, vous prenez les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent dans votre vie, vous mettez leurs qualités, leurs défauts, leurs revenus financiers tous les mois, vous faites la moyenne de ces qualités, de ces défauts et de leurs revenus financiers, et je parie que ça vous décrit exactement aussi bien que qu'un horoscope ou que quoi que ce soit. Et donc la dynamique ensuite pour évoluer, sachant que vous avez déjà appliqué les 3 premières clés, hein, n'oubliez pas, c'est dans l'ordre, c'est de vous entourer de personnes qui vont avoir les qualités que vous voulez avoir, qui vont pas avoir les défauts que vous voulez ne plus avoir, et qui vont avoir les revenus financiers que vous voulez avoir. Et en vous entourant de ces personnes-là, en les côtoyant souvent, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, chacune de ces personnes, enfin pas chacune de ces personnes, mais une de ces personnes au moins une fois par semaine, et puis si vous pouvez 2 fois par semaine, c'est mieux, le maximum en fait, hein. Eh bien, ça va, c'est inconscient en fait, c'est quelque chose qui va se passer naturellement. Même si vous allez boire un café avec l'une de ces personnes et que vous avez l'impression que vous faites rien, que vous avez parlé de n'importe quoi, sa dynamique, son état d'esprit va déteindre sur vous. Moi, quand j'ai commencé du coup penser à dire que j'ai quitté mon job d'ingénieur et que je me suis retrouvé avec ma liste de 3000 contacts et quelques articles sur Internet, j'avais toujours pas de produit, j'avais rien. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à des personnes qui vivaient de leur site web, déjà. J'ai envoyé des mails, hein, tout simplement. Je suis allé des rencontres, donc j'étais sur Paris, des rencontres d'entrepreneurs. Maintenant, il y en a dans toutes les villes de France pratiquement, d'entrepreneurs web, et j'ai rencontré les gens. Et à chaque fois que je rencontrais les gens, je prenais les contacts des gens qui vivaient déjà de leur site web et qui partageaient mes valeurs. Ensuite, je les recontactais et j'essayais d'en faire des amis. Ça marche pas avec tout le monde.
Bien
Mais quand
sûr.
ça marche, ça marche. Et du coup, j'ai réussi à avoir les 5 personnes que je côtoie le plus souvent parmi ces personnes-là. et bah, ça m'a tiré vers le haut parce que vous allez vous dire au début, putain, ces mecs sont dingues, c'est pas possible. Vous allez, moi, ce qui m'avait juste une anecdote très rapide, je mangeais avec l'un de ces gars-là, comme ça que je revoyais, je discutais avec lui, puis son portable il vibrait. Et je lui dis, mais pourquoi il vibre ton portable? C'est, enfin, normalement, enfin, c'est bizarre, tu vois, en développement personnel, on se dit, ouais, on met pas son portable comme ça. Et il me fait, ouais, mais en fait, il vibre à chaque fois que je gagne de l'argent. J'ai fait, ah! En fait, son portable faisait cling, cling. Et il y a une application comme ça sur téléphone qui, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre sur votre compte en banque, ça fait cling, en fait. Et donc lui, son portable faisait cling tout le temps. Et il m'a dit, voilà, en fait, pour mon état d'esprit, plus il y a d'argent qui rentre, plus je suis positif. Et donc lui, il avait mis, voilà, un petit trigger, on va dire un levier psychologique, un actionneur psychologique plutôt. Et son portable faisait cling, cling, cling. Et quand on mangeait, et je me disais, putain, c'est génial. Et rien que ça, c'est tout con, mais ça matérialise dans la réalité, c'est des faits, c'est quelque chose qui existe, et vous voyez une personne qui le fait, et ça va vous aider à progresser. Et du coup, la cinquième clé, très rapidement encore, parce que sinon l'interview va pas finir, hein. Tout le monde m'a demandé 5, hein. Donc j'en donne 5 et je donne des vraies clés, hein. Je donne pas des clés toutes pourries. Donc la cinquième, c'est ce que j'appelle la dynamique de la réussite. Et la dynamique de la réussite, c'est encore une fois une phrase, c'est très simple. L'échec n'existe pas, ce ne sont que des tentatives qui vous permettent d'apprendre. Et en ce sens, l'échec est nécessaire à la réussite. Donc une personne qui réussit, c'est une personne qui a échoué plus de fois qu'une personne qui n'a pas réussi. Et si on remplace le mot échec, qui est vraiment un sale mot, et en fait la définition d'un échec, c'est une tentative avec une finalité négative. Donc ça, on vire, échec, ça ne doit pas exister. Échec, c'est une tentative. Finalité négative, ça n'existe pas parce qu'il y a de finalité que le jour où vous serez mort. Donc, une tentative négative, vous avez toujours moyen de trouver des axes d'amélioration pour entrer dans une dynamique d'amélioration continue. Et donc, la dynamique de la réussite, c'est de tenter de façon perpétuelle et à chaque fois que ça fonctionne pas comme vous voulez, eh bien, c'est de prendre les circonstances de l'essai, de les changer, d'améliorer, enfin, de les changer, de retester, de voir si ça améliore. Et toujours d'aller vers une spirale vertueuse comme ça. Si vous tentez et que ça fonctionne pas, donc si vous échouez, mais il n'y a pas de finalité, encore une fois, je le dis, vous devez toujours prendre soin de changer les circonstances de l'essai. Ça paraît débile comme ça, mais si vous regardez autour de vous, les personnes vont essayer 1000 fois de réussir quelque chose en faisant 1000 fois la même chose. Notamment dans le monde du blogging, parce que c'est notre truc, ça, sur Internet, on connaît. Il y a des blogueurs qui se lancent, ils ont suivi une formation de blogging pro qui leur dit qu'il faut écrire des articles sur des blogs, et ils vont écrire des articles sur des blogs. C'est bien d'écrire des articles sur des blogs. Et les mecs, ils vont faire que ça, pendant 2 ans, 3 ans, et ça, c'est véridique ce que je dis. Hein. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté, qui voulait m'interviewer, ça faisait 3 ans qu'il avait lancé son blog, et je commence à lui parler. Et je lui dis, t'as combien d'inscrits dans ta liste? Il me dit 56. Je lui dis, c'est pas possible. Enfin, je lui ai pas dit, mais dans ma tête, j'ai raisonné. Je lui dis, ce mec-là, ça fait 3 ans qu'il est en train d'écrire des articles sur son blog. Il a 56 inscrits à sa liste et il continue d'écrire des articles sur son blog. Il y a peut-être un problème de référencement, il y a peut-être un problème de qu'il sait pas écrire ou qu'il faut faire autre chose ou, enfin, j'en sais rien. Ça, après, c'est, ou qu'il doit faire une chaîne YouTube, un podcast, n'importe quoi. Ça, après, c'est les axes d'amélioration. Mais, c'est Einstein qui disait faire 10 000 fois la même chose en espérant un résultat différent, c'est le propre de la folie. Et malheureusement, les deux raisons de l'échec, c'est soit vous n'avez pas persévéré assez longtemps, et je peux vous garantir qu'il faut persévérer ultra longtemps pour réussir, sinon tout le monde réussirait. Et la deuxième, c'est d'essayer de faire tout le temps la même chose. Et ça, c'est totalement dingue. Et ne croyez pas que vous ne tombez pas dans ce piège, parce que je suis tombé dans ce piège, et on tombe tous dans ce piège. C'est-à-dire qu'on va réessayer continuellement la même chose parce qu'on croit savoir. Croire savoir, c'est savoir sans avoir réussi. C'est toutes les personnes qui croient savoir, c'est celles qui vous disent qu'il faut faire ça, mais qu'ils n'ont jamais réussi. Elles le font, hein. Elles le font tous les jours, mais elles n'ont jamais eu le résultat. Donc, croire savoir, c'est le pire truc. Savoir, c'est avoir eu le résultat en étant passé à l'action. Donc, surtout... Surtout, essayez, passez à l'action. N'oubliez pas la troisième clé, fait est mieux que parfait, vous passez à l'action. Ensuite, vous regardez les résultats, vous mesurez les résultats, vous vous dites, ok, ça n'a pas fonctionné, je change les circonstances initiales, et surtout pas, je réessaye la même chose, je change les circonstances initiales, et je réessaye, et je mesure, et ainsi de suite, et ça pendant autant de temps qu'il faudra. Il y a des personnes, des fois, qui se posent la question, combien de temps ça va me prendre pour réussir? Et moi, je leur réponds, autant de temps qu'il faudra. Si vous avez validé les premières clés, c'est-à-dire si c'est en accord avec vos valeurs. Si c'est pas en accord avec vos valeurs, vous pouvez abandonner tout de suite, ça sert à rien, vous persévérerez pas. Et par contre, si vous avez toutes ces clés-là, bah, la dernière, c'est la persévérance. C'est ce que je viens de dire. Donc, échouer plus que quelqu'un d'autre, mais bien sûr, vous avez compris que l'échec, c'est pas une finalité. Tenter plus que quelqu'un d'autre. Et à un moment, ça a fonctionné. Et ça va prendre du temps. Alors, des fois, ça marche direct parce qu'il y a des business qui marchent d'un coup. C'est génial. C'est pas la majorité. Et puis, en fait, non, il n'y a aucune personne qui a réussi d'un coup qui a pas essayé très longtemps. Parce que si vous étudiez toutes les réussites fulgurantes, vous verrez que derrière, elles ont essayé pendant 10, enfin 5 ans, 10 ans, et elles ont persévéré, persévéré, persévéré. La persévérance, c'est la clé de la réussite. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair parce que j'ai beaucoup parlé, l'interview dure longtemps, j'espère que ça te convient,
Non,
Ogier.
c'est parfait pour. Je pense que les 5 clés, on va pas les résumer parce qu'on va re-rentrer dans le
Ouais.
débat. On est des gens passionnés et c'est intéressant. On pourrait parler pendant des heures. Ça intéresserait beaucoup de personnes, mais peu irait jusqu'au bout finalement. Donc, on va écourter un petit peu tout ça. En tout cas, bah, je voulais te remercier, Mathieu, pour le temps que tu nous as accordé, pour ces 5 clés que tu nous as partagées. Pour conclure, allez vraiment sur le site Penser et Agir. Je vous recommande d'aller voir les articles, d'aller suivre un peu les vidéos aussi sur YouTube, vraiment très bien faites, où Mathieu diversifie un peu ses vidéos. Parfois vous promenez dans la rue avec lui, donc ça peut être aussi sympa pour vous de vous balader avec lui. Et il y a toujours des choses intéressantes à prendre, à s'inspirer, en fonction des niveaux de vie où vous en êtes, en fait, l'endroit où vous en êtes actuellement. Il y a toujours des clés, des choses à récupérer. Il y a des choses qui vous parleront pas maintenant et d'autres qui vous parleront plus tard et qui seront tout simplement géniales pour que vous puissiez avancer. Tu avais un petit mot à ajouter, Mathieu, ou
Non, mais ta dernière phrase m'a fait penser à une citation qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc c'est exactement ça. Il y a des conseils qui sont impactants à un moment donné de sa vie et d'autres qui le sont pas. Notamment si vous avez lu un livre qui vous a plu il y a 10 ans, je vous encourage à le relire parce que vous allez avoir l'impression de le lire pour la première fois parce que vous aurez évolué dans votre vie et donc vous le percevrez pas pareil. Je parle de livres bien sûr d'apprentissage et pas de romans.
Bon, je pourrais rebondir, mais je vais m'écourter sinon. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour cette interview que tu nous as accordée et
C'était un plaisir.
je te souhaite une bonne fin de journée. À
Bonne fin de
bientôt.
journée à toi aussi. Salut.
Salut.